Radio Kapi.
Notre journal de 8h de Kinshasa, 9h à Beni. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous parlons de ces dégâts de la prison de Kangwai à Beni à la suite de la mutinerie des détenus militaires qui a eu lieu vendredi pour un problème de solde non payé. Le système de vidéosurveillance, une partie du plafond, le bureau du directeur et la salle de consultation, par exemple, ont tous subi des dommages. Dans ce journal aussi, la lutte contre Ebola avec ce nouveau renfort de la Banque mondiale ayant d'ajouter 10 autres millions de dollars, ce qui porte son financement à 73 millions de l'argent pour soutenir la riposte du gouvernement et renforcer la prévention au niveau national et régional. Comme invité, Ghislain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. Sa coopérative vient d'organiser à Goma la 3e édition de la conférence et du concours de qualité dit Best of Congo Cooperatives. C'est pour promouvoir un café et un cacao de bonne qualité. Bonjour à toutes et à tous. Suite de la mutinerie de détenus militaires qui a éclaté vendredi dans la prison de Kangwai à Beni au Nord Kivu, le bilan fait état d'importants dégâts matériels. Le système de vidéosurveillance de cet établissement est désormais hors service après les violences survenues sur place. Les militants, je vous rappelle, réclamaient le paiement de leurs soldes. Cette prison construite pour 250 personnes accueille actuellement plus de 2000 détenus, dont plusieurs centaines de militaires FRDC et des membres présumés de groupes armés. Des précisions avec Martial Papimoukeba.
Le paiement de la solde des détenus militaires se poursuivait encore ce samedi après-midi à la prison de Kangwai. Selon des sources militaires, au moins 440 détenus militaires devaient être payés en réponse à la revendication à l'origine de la mutinerie de vendredi. Selon des sources pénitentiaires, les dégâts sont importants. Une partie de la toiture et du plafond d'une cellule a été endommagée. Plusieurs matelas et la salle de consultation des détenus malades ont été incendiés. Le bureau du directeur a été saccagé, de même que plusieurs documents administratifs. Les militaires ont également détruit une partie du dispositif de sécurité. 5 caméras de vidéosurveillance, 2 écrans de contrôle, 7 projecteurs d'éclairage, 4 détecteurs de métaux, ainsi qu'un miroir d'inspection des véhicules. Le système de vidéosurveillance est désormais hors service, selon nos sources. La prison de Kangwai héberge actuellement 2069 détenus, dont près de 300 membres présumés des groupes armés, notamment des ADF. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Justice, des audiences s'accélèrent du côté du Tanganyika. Tenez, plus de 50 dossiers ont été traités, 33 prévenus condamnés et une dizaine d'acquittements. C'est le bilan des audiences du tribunal des grandes instances du Kalemi qui a siégé en chambre foraine dans le territoire du Congo pendant une dizaine de jours. Et ces audiences ont pris fin à ce week-end, signalant que le tribunal s'est déplacé grâce à l'appui logistique du PNUD. Pour la Mounanga, nous en dit plus.
Les peines prononcées par les tribunaux de grande instance de Kalemie vont de 12 mois à 10 ans de prison. Les prévenus ont été condamnés pour vol qualifié, viol sur mineur, association de malfaiteurs et meurtre. Les procureurs près le tribunal de grande instance de Kalemie précisent que parmi la dizaine de prévenus qui ont été acquittés, il y a ceux qui ont été condamnés avec de larges circonstances atténuantes, ce qui fait que les années qu'ils ont passées en détention ont dépassé les peines qui ont été prononcées par les tribunaux. Charles Benjamin Tapale rappelle que l'objectif a été de désengorger la prison des Congolos. Signalons que les autorités judiciaires de Kalemie lancent un cri d'alarme aux partenaires agissant dans les secteurs de la justice afin de soutenir le tribunal de grande instance de Kalemie pour qu'il se déplace dans d'autres territoires du Tanganyika, notamment Manono, Moba, Nyunzu et Kabalo. Dans ces territoires, les détenus préventifs attendent d'être jugés depuis plusieurs années. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Lutte contre Ebola et son financement. La Banque mondiale revient à la charge. Sur les 63 millions de dollars déjà versés, cette institution financière vient d'ajouter 10 autres millions de dollars américains, ce qui porte son financement à 73 millions de dollars. Objectif, soutenir évidemment les efforts de riposte du gouvernement et renforcer les capacités de prévention au niveau national et régional. L'annonce a été faite hier à Kinshasa par le directeur pays de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, la RDC, Sao Tomé et Principe, Albert Zefak. Cette épidémie, comme vous le savez, touche les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Des détails avec Ella Chimbalou.
Selon le directeur pays de l'institution, Albert Zeoufak, ces ressources serviront à soutenir la mise en œuvre du plan de riposte du gouvernement. Il précise que 46 millions de dollars sont déjà mobilisés dans les cadres du projet de préparation, des ripostes et des résiliences aux urgences sanitaires, mises en œuvre en collaboration avec le ministère de la Santé. Ces fonds, souligne-t-il, sont déjà disponibles et en cours de décaissement. L'institution accompagne également les efforts de préparation au niveau régional, en partenariat avec Africa CDC et les pays voisins, afin de prévenir toute propagation transfrontalière de l'épidémie. Pour la Banque mondiale, ces renforcements du financement doivent permettre de rendre la riposte plus efficace et de mieux faire face à cette urgence sanitaire. Notez qu'en date du 17 mai, soit 2 jours après la déclaration officielle de l'épidémie en RDC, l'Organisation mondiale de la santé a classé Ebola comme une urgence publique de portée internationale.
Clôture de l'année scolaire, mais attention au spectre d'Ebola qui rôde. En tout cas, des milliers d'élèves de l'école primaire et de l'Institut Munigi à Walikale au Nord Kivu, ainsi que leurs parents, ont été sensibilisés aux mesures de prévention contre Ebola. C'était lors de la clôture de l'année scolaire au Nord Kivu. L'activité organisée vendredi par l'ONG Femmes Unies pour le développement endogène et intégral visait à promouvoir le respect des gestes préventifs pendant les vacances. Des kits sanitaires ont également été distribués aux bénéficiaires à cette occasion. Des précisions de Bernardine Odiambo.
Environ 300 personnes ont pris part à la cérémonie de proclamation de résultats de fin d'année organisée dans l'enceinte de l'EPE et de l'Institut Munigi. Parmi elles figuraient des enseignants, des élèves, des parents ainsi que des membres de la communauté locale. Selon Rachel Mouloulou, coordonnatrice de la FIDEI, cette affluence a constitué une occasion privilégiée pour sensibiliser le public aux mesures de prévention contre Ebola.
Nous avons sensibilisé les élèves, les écoliers, les enseignants, les parents sur les danger de la maladie à virus Ebola.
Tout en saluant cette initiative, le directeur de l'établissement Dani Wamungu Stéphane a promis de faire bon usage des kits sanitaires remis à l'école.
Les kits écoles FIDEI viennent de nous doter tout à l'heure. Nous allons les garder jalousement. Ce sont des matériels qu'on doit utiliser pour la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Les responsables scolaires ont par ailleurs invité les parents à promouvoir les efforts de sensibilisation à domicile. Il les a exhortés à veiller au respect des mesures barrières pendant les vacances afin que les acquis obtenus à l'école ne soient pas perdus. De leur côté, les parents se sont engagés à promouvoir et à faire respecter les mesures de prévention au sein de leur ménage.
Ebola toujours avec son nouveau nez. Il s'agit d'un centre de traitement de la maladie à virus Ebola, ouvert hier samedi à Beni. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans cette ville du Nord Kivu en présence des partenaires techniques du gouvernement congolais engagés dans la riposte contre cette épidémie. Situé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Beni, ce centre dispose d'une capacité d'accueil de 20 lits et répond aux normes requises pour assurer la sécurité des malades ainsi que du personnel soignant. Dr Jérémy Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, et gestionnaire du centre revient sur les avantages de cette nouvelle infrastructure. Il est au micro de Marc Maroufimbo.
Un ouvrage qui va contribuer sans doute à soigner les malades, mais aussi contribuer à l'éradication de la maladie. Parce qu'ici, lorsqu'on isole un malade, c'est que là, on coupe rapidement la chaîne de propagation ou de contamination. Donc, quand un malade est isolé, il n'est plus en contact avec les membres de la communauté. Et non seulement qu'il est isolé, mais aussi, il est soigné, il est traité selon son cas. C'est vraiment un centre qui répond aux normes de biosécurité, parce qu'ici, si c'est la sécurité du personnel, mais aussi c'est la sécurité du patient. Donc tous les patients qui vont bénéficier des soins ici, ils vont bénéficier d'une prise en charge holistique, dans une approche d'humanisation des soins. Lorsque on parle de l'approche des soins qui sont centrés sur les malades, vous avez vu que les malades en état isolé, le contact avec les membres de sa famille n'est pas coupé. Il peut communiquer avec sa famille à travers des fenêtres qui sont vitrées, et aussi cette configuration permet mais la surveillance même du malade à distance. Donc ici, ce sont les équipes soignantes.
Célébration hier samedi de la Journée internationale des coopératives à travers le monde. À RDC, cette célébration a eu lieu officiellement à Kindu, dans la province du Maniema, en présence du ministre d'État, ministre du Développement Rural, devant les membres des coopératives venus de 26 provinces de notre pays. Grégoire Mouchaï Moutombe réitère l'engagement du gouvernement congolais à relever les défis de stimuler l'économie locale en créant des emplois et à renforcer la cohésion sociale face aux crises. On écoute un extrait du discours du ministre Grégoire Mouchaï Moutombe, choisi par Florence Kizalunga.
Le monde célèbre la journée internationale des coopératives, avec comme thème international les coopératives au service de la paix dans le monde. En s'inspirant de ce thème, notre pays en proie à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC M23 a opté pour un thème national qui est les coopératives, un des enjeux majeurs pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Placée sous le signe de la paix, cette journée met en lumière un modèle économique inclusif, démocratique et résilient, capable de stimuler l'économie locale, de créer des emplois et de renforcer la cohésion sociale face aux crises. Elle est célébrée à Kindu, dans la province du Maniema, afin d'attirer l'attention sur les coopératives et montrer comment celles-ci contribuent à la paix dans la société en renforçant l'économie locale. C'est pour ce faire, le gouvernement est résolument engagé à relever ces défis pour le bien de nos communautés rurales et périurbaines.
Un mort et un blessé grave, c'est le bilan d'une collision entre un corbillard et une moto sur la route nationale numéro 1, accident survenu vendredi au niveau du virage Kisengo dans le territoire de Sekebanza. Vous avez compris, nous sommes dans le Congo central. Cet accident survient en 72 heures seulement après un autre drame qui s'est produit sur le même axe routier où trois personnes avaient perdu la vie près du village Kiyindindi. Selon la police et circulation routière qui livre ces informations, l'excès de vitesse et le mauvais dépassement restent les principales causes de ces accidents à répétition sur la nationale numéro 1. Élise Kavika nous en dit un peu plus.
Selon les premières informations recueillies auprès des sources locales, un corbillard venant de Boma est entré en collision avec une moto qui roulait en direction des Kinzamvuété. Le conducteur de la moto a été évacué d'urgence au centre de référence des Kinzamvuété. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Son passager grièvement blessé reçoit toujours des soins dans la même structure sanitaire. De son côté, le conducteur du corbillard a été interpellé par la police et est actuellement entendu afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce nouveau drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur la route nationale numéro 1 où les accidents mortels sont fréquents. Les autorités locales appellent les usagers à plus de prudence et au respect strict du code de la route. Elles recommandent notamment de réduire la vitesse, surtout dans les virages et les zones à risque où les collisions sont souvent graves, d'éviter les dépassements dangereux, de respecter les distances de sécurité et de veiller au bon état technique des véhicules. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Restons sur les routes. À Kinshasa, la dégradation progressive de la chaussée Petro-Congo dans la commune de Massina, notamment dès son entrée sur l'avenue Kingabwa, inquiète. Les usagers de cette voie se plaignent car en plus, un énorme trou situé entre l'avenue Ouassa et Orientation complique la circulation et provoque des embouteillages au quotidien. Ces habitants qui espéraient l'élargissement de la chaussée tel qu'annoncé par les autorités de la ville attendent toujours depuis plus de 6 mois le début des travaux. Sephora Mpaka nous en parle.
Entre poussière et impraticabilité, les usagers de la route Petro-Congo haussent les tons pour dénoncer le calvaire quotidien auquel ils font face. Depuis la dégradation progressive de la chaussée sur cet axe routier, Israël Fumba, habitant du quartier, raconte son désarroi face à cette situation.
C'était vraiment pas considérable. On pouvait résoudre en moins d'une semaine. Une fois constaté le fait, on pouvait directement agir, mais ça a beaucoup traîné et l'état s'est dégradé de pire en pire. Ça empêche la circulation, ce n'est pas un état. Quand il pleut, heureusement que nous sommes à la saison sèche, c'est compliqué parce qu'il y a trop de boue.
Pour Junior, cambiste délogé lors des démolitions, l'espoir demeure. Il attend le lancement de travaux de réhabilitation et l'élargissement de la route afin de reprendre ses activités dans les meilleures conditions.
Il y a une forte circulation par ici, moto, piétons et véhicules. Voilà pourquoi les autorités avaient pris l'initiative de démolir pour élargir la chaussée, mais une année entière est déjà passée sans suite. Dans d'autres communes, les travaux évoluent et ici, tout tarde encore. Cette réhabilitation sera avantageuse pour nous tous.
En attendant une réponse favorable des autorités, les usagers de cet axe routier continuent de subir un calvaire pour circuler et accéder facilement sur le boulevard Lumumba.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé vendredi la création prochaine de son propre parti politique. Il a fait devant plus de 300 maires de sa coalition réunis au Palais de la République. Cette annonce précise RFI officialise une rupture avec Ousmane Sonko et le PASTEF. Elle intervient alors que les députés viennent de voter une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le président de diriger un parti politique.
L'invité.
Il s'agit de Gislain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri, en partenariat avec African Coffee Connect. Sa coopérative a réuni à Goma jeudi et vendredi une vingtaine de coopératives de producteurs et d'exportateurs de café et de cacao. C'est dans le cadre de la troisième édition de la conférence et du concours de qualité Best of Congo Cooperatives. Quels sont alors les principaux défis de la promotion de ces produits sur les marchés internationaux dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est de la RDC? Gislain Kamondo répond aux questions de Bernard Denyengi. Je précise que c'est une interview réalisée vendredi, jour de clôture de cet événement.
Monsieur Gislain Kamondo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes en train de clôturer la conférence et concours de qualité café et cacao congolais, troisième édition, c'est-à-dire que cela fait suite aux deux premières éditions.
Justement, on est le 3 juillet 2026. Nous allons clôturer notre conférence Best of Congo Cooperatives 2026, qui est justement une suite de la première édition et la deuxième qui se sont passées successivement en 2024-2025.
Pour cette édition, quels étaient les objectifs?
Les objectifs restent les mêmes. D'abord, ce sont des échanges autour de plusieurs défis du secteur, que ce soit du café congolais, mais aussi au monde. Il y a des défis par rapport au marché, accès au financement. Vous savez que ça va faire déjà des campagnes agricoles, que les banques ici sont fermées et qu'on a du mal pour les exportations. C'est tout ce thème-là qu'on a eu à développer. On a réussi à envoyer aussi les échantillons à Londres, en Grande-Bretagne. On envoie aussi à Bruxelles lors de World of Coffee. Le café Best of Congo Cooperative a été dégusté, mais aussi on est allé jusqu'en Corée du Sud, à Séoul, et aux États-Unis d'Amérique, à New York. Donc on va devoir donner les résultats des scores de dégustation de ces différents jurys qui étaient non seulement à Goma, mais aussi dans ces différents pays, parce que au bout de 3 ans, Best of Congo Cooperative est déjà dans 4 continents pratiquement.
Jusqu'à ce stade, quelle peut être l'évaluation de l'impact de ces conférences par rapport aux activités de production, mais aussi commercialisation de café et cacao congolais?
L'impact est très positif. On a commencé, comme je l'ai dit, en 2024. Et là, c'était seulement 10 coopératives. On avait fait Goma et Londres. C'était seulement 2 villes. L'année passée, on a pu maintenant faire aussi la dégustation au niveau des États-Unis d'Amérique, à Londres et en Corée du Sud. Et les coopératives sont passées de 10 à 20. Donc, c'était le double. Et on a facilité les ventes des Mikolo de 18 coopératives l'année passée. Et pour cette année, on est passé maintenant de 20 à 23 coopératives. Et une mention spéciale, c'est que maintenant, on a proposé aussi les cacao. Il y a 5 coopératives qui ont proposé les cacao, situation des coopératives de Beni. Alors, une autre nouveauté, c'est que on a proposé aussi d'autres méthodes de transformation du café au niveau des stations de lavage. Avant, c'était le café flogged seulement, mais cette année, on a proposé aussi du café naturel, du café anaérobique, mais aussi du café d'impact. C'est le café que nous appelons des marginalisés. C'est le café Mama Kivu, qui est un café produit par les femmes, transformé par les femmes, et donc qui a été aussi commercialisé par ces noms-là. Il y a aussi des groupes de pygmées que nous avions essayé aussi d'intégrer dedans, ainsi que des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les femmes, ce sont des moteurs du développement. S'ils ne sont pas impliqués dans les secteurs du café, cacao, il y aura toujours des problèmes, mais aussi sans oublier les pygmées qui ont leur habitat naturel, la forêt, et qu'il faudrait aussi encadrer dans ces deux chaînes, parce que s'ils ont des moyens à répondre à leurs besoins, ils vont éviter de s'attaquer à la forêt.
Actuellement, comment vous pouvez évaluer la production, notre production, est à hauteur de quelle quantité, par exemple, pour le café, quelle quantité pour le cacao?
Les statistiques au Congo, c'est ça le plus grand problème, parce que en réalité, l'organisme chargé de tout centraliser, c'est l'ONAPAC. Et comme vous le savez, il y a déjà bientôt 2 ans que l'ONAPAC est ici à Goma, que ce soit à Bukavu, on n'est pas opérationnel comme tel. Et ça fait que avoir les statistiques de vente, c'est un problème. Mais aussi, il n'y a pas de vente comme telle pour le moment, du fait qu'il y ait certains acheteurs, surtout des grandes comme Starbucks, comme Nespresso, ils ont fui la zone. Ils disent que c'est tous les cafés du littoral. Littoral, quand on parle du littoral, c'est le sud du Kivu, autour du lac Kivu. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas acheter les cafés d'ici. Ça serait financer la guerre. Et ce sont aussi des sociétés qui sont cotées dans des bourses. Il faut aussi les comprendre. Et cela a un coup dur pour les petits producteurs. Et du coup, en tout cas, la grande partie de ces cafés est vendue par des contrebandes. Et cela ne permet pas vraiment aujourd'hui d'avoir des statistiques de production.
Alors, pour cette édition de votre conférence, les participants viennent seulement du nord et du sud Kivu?
Pas seulement le nord Kivu, comme je venais de l'affirmer, parce qu'il y a aussi une coopérative d'Elitouri, de Mambasa donc, qui a aussi présenté ses échantillons. Donc, il y a trois provinces pour le moment qui sont concernées.
Monsieur Justin Kamondo, merci.
Merci.
Il s'agit du directeur exécutif de la coopérative Congo Agri. Yevin Bunga a supervisé ce journal. Alain Angor, il l'a mis en nom. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté. Merci à vous qui venez de le suivre. Passez une bonne journée dominicale.